On entre maintenant dans la deuxième partie de cette conférence de presse, c'est questions-réponses. Nous vous rappelons qu'à Goma, nous avons aussi le général Jean Bayo, commandant adjoint de la force de la MONUSCO. On vous demande d'étendre vos téléphones, de les mettre sur silence et de vous présenter. Je vais commencer aujourd'hui par Goma. Amadou, est-ce qu'on peut avoir une première séquence de questions à Goma? Trois questions.
Ok. Donc, Victor Bigatti. Moi, c'est Victor Bigatti pour les comptes du journal Hebdo de l'Est. Quelles sont les difficultés que la brigade de l'intervention rencontre sur le terrain dans les Rwenzori? Je pose ma question au général, au colonel Bayo.
Non,
général Bayo, je m'excuse pour ça.
Allez-y.
Bonjour de Goma, je suis le commandant adjoint de la force, le général Bayo. Alors, les difficultés dont vous parlez, en fait, ce sont les difficultés qui s'appliquent non seulement à la brigade d'intervention, mais à tous les acteurs, on va dire, qui sont engagés contre ADF. Il y a une difficulté de terrain, il y a une difficulté d'adversaire, on va dire, qui change en permanence de tactique, et il y a aussi, je dois le dire, un besoin encore affirmé d'être mieux renseigné. Et c'est pour ça que le secrétaire général adjoint, le représentant spécial des Nations Unies en RDC, M. Kobler, a bien insisté sur ce fameux triangle de confiance entre la MONUSCO, les populations et les FRDC. Et je rajouterai en fait au FRDC aussi tous les services d'État de sécurité qui sont engagés contre cette lutte. C'est en fait la réalisation et la concrétisation de ce triangle de confiance qui va amener à plus d'action. On doit passer effectivement d'un triangle de confiance à un triangle d'action. Alors, la brigade, je peux vous assurer qu'elle est engagée. Je dois aussi vous apporter, je pense, aussi une précision sur un certain nombre de choses que l'on entend. Notre relation avec les autorités d'État engagées dans ce combat, en particulier les FRDC, non seulement se porte bien, non seulement s'améliore tous les jours, mais est en train, je pense, de se concrétiser encore plus sur le terrain. Et on vient de le voir avec une opération de 3 jours qui vient de se faire dans le parc, qui n'est qu'un élément d'un plan beaucoup plus large qui vise réellement à éradiquer cet adversaire. Donc nous avons des difficultés, mais nous sommes totalement engagés pour les atténuer ou les adresser.
D'accord.
Le lundi dernier, qu'est-ce qui s'est passé vraiment au camp Bauma à Kisangani? Notamment, on parle de soulèvement des FDLR, ils étaient mécontents de leur manière d'hébergement. Il y a la deuxième version, et que les FRDC et les FDLR se disputaient les logis du camp. Ça, c'est la première question.
La deuxième Non. Une question. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui veulent aussi poser des questions.
Amadou, on n'a pas...
Ma question est adressée
à Monsieur Bass, Philippe, au colonel Bass. La question est adressée au colonel Bass.
Oui, je rappelle que le général est à Goma juste à côté pour prendre les questions. Mais juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il n'y a pas eu de problème a priori à proprement parler concernant les FDLR et les populations. C'est un problème interne au FRDC concernant l'affectation d'un logement qui était initialement attribué à un officier FRDC à qui on a demandé de bouger pour l'attribuer à quelqu'un d'autre. Donc c'est un problème réellement interne qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a entendu hier dans la presse concernant cette histoire-là. Donc évidemment, l'intervention de la police s'est faite de manière très rapide et le calme est revenu. Donc il n'y a pas d'amalgame dans cette histoire-là. C'est un problème interne au FRDC.
Une troisième question, Amadou?
On reste à Goma?
Oui.
Ok, au fond là.
Papi. Oui. C'est M. Okito Papi du journal Écho d'Opinion. Ma question, je la pose au général Bayo. En fait, le chef de l'État a demandé à ce que la MONUSCO puisse déjà plier, commencer à penser à plier le bagage. Est-ce que, dès lors qu'il a dit ça, vous avez quel sentiment d'abord par rapport à ces discours? Et est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à faire des bagages?
Écoutez, je pense que je n'ai pas apporté de commentaires, on va dire, d'ordre politique. Moi, je dois me limiter, on va dire, à confirmer et même à affirmer notre engagement au sein de la MONUSCO pour la force, pour l'ensemble de la force, à appliquer pleinement notre mandat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai insisté sur l'importance, on va dire, de notre coopération avec les autres acteurs de sécurité qui sont engagés dans ce même objectif, qui est de permettre enfin à toutes ces populations congolaises de l'est du pays, et je pense aussi à toute la région, finalement, de vivre en paix. Je pense que le Conseil de sécurité vous a donné un mandat très clair. Ce mandat, il est en cours d'implémentation, mais il n'est pas encore complètement achevé. Il faut bien en le reconnaître, et nous en sommes, nous, militaires sur le terrain, parfaitement conscients. Donc, permettez-moi de vous dire que je suis personnellement totalement investi dans ce qui reste encore à faire devant nous, avec les autres acteurs congolais, en particulier les militaires. Je pense que nous avons encore du travail à faire et nous restons vraiment concentrés là-dessus.
Merci beaucoup. Moustapha Soumaré aussi veut contribuer à cette question. Sur ce point, je voulais aussi quand même rappeler qu'il est important que vous le sachiez, que vous le notiez. Et ça, je crois que c'est important. Dans la résolution 2147, et le paragraphe 38. Le Conseil de sécurité a demandé au secrétaire général d'entreprendre une revue stratégique, une revue de la mission et de tout le système des Nations Unies en RDC dans le but de faire des propositions en ce qui concerne la stratégie de sortie de la MONUSCO. Donc, comme vous le savez, cette revue stratégique s'est tenue du 5 au 14 novembre. Au cours de cette revue stratégique, nous avions eu des discussions aussi avec le gouvernement, qui a aussi clarifié sa position. Je crois que c'est un peu le point qui a été posé par le journaliste qui a posé la question. La revue stratégique, ils vont préparer leur rapport qui va être soumis au niveau du Conseil de sécurité. Et nous allons toujours continuer, en fait, nos discussions avec le gouvernement pour que, finalement, la forme, vraiment, de la stratégie de sortie soit, justement, acceptée d'accord parti. Mais pour le moment, nous nous concentrons véritablement sur notre mission. Et notre mission, c'est de continuer à soutenir ici aussi bien le gouvernement dans le cadre de toute sa politique de protection des civils, faire en sorte que nous puissions ensemble combattre les groupes armés, faire en sorte que nous puissions aider les personnes qui sont déplacées à cause des conséquences de ces groupes armés, faire en sorte que dans le reste du système des Nations Unies, vous avez entendu Geneviève qui a dit, que nous puissions mettre en œuvre le programme vraiment d'appui à toute la politique de développement de ce pays-là qui a été agréée dans le cadre de l'accord cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement. Donc c'est un point qui va se discuter, qui va se continuer, mais en fin de compte, la décision finale, bien sûr, ça sera aussi au niveau du Conseil de sécurité en discussion avec le gouvernement. Merci. Ok, on revient maintenant à Kinshasa. On continue à Kinshasa pour la deuxième séquence de questions. Je vais ici à ma gauche. Le micro à ma gauche.
Marcelin Tshisoka, journaliste à CCTV. Je m'adresse à M. Carlos. M. Wafi avait déclaré que la publication du rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violences commises lors des élections de 2011 était importante, je cite, pour que les mesures soient prises. Et dans ce rapport, il y a une recommandation qui était faite à la communauté internationale de pouvoir demander instamment aux autorités congolaises de traduire en justice les auteurs les auteurs présumés de violences. Est-ce aujourd'hui, avec la lettre, j'ai un courriel, un Congolais qui a écrit à la MONUSCO et s'est réceptionné par la MONUSCO, la MONUSCO est-elle prête aujourd'hui de pouvoir demander ou appliquer cette recommandation avant que M. Tshombe, qui a écrit, interpelle les représentants spéciaux des Nations Unies. Et quant à ça, je me dis, dans les 5 moyens que M. Tshombe a proposé, si la MONUSCO est prête aujourd'hui à appuyer les 5 moyens. Merci.
Merci beaucoup. M. Moustapha Soumaré va répondre à votre question.
Merci. Comme vous le savez,
la protection des droits de l'homme, c'est non seulement dans le mandat de la mission, dans le cadre de la résolution, mais c'est aussi un aspect important, vraiment même, de la politique du gouvernement. Je crois que ça, c'est important. Et donc, nous, au-delà de ce qui s'était passé concernant le rapport qui a déclenché tout ce que j'appelle le processus qui a vu le départ de Campbell, nous disons, et le gouvernement même l'a dit aussi, que pour eux, c'est important vraiment de mettre en œuvre ce rapport-là, et qui vont s'y évertuer à le mettre en œuvre. Et nous, notre rôle en tant que système des Nations Unies, c'est justement de contribuer et de soutenir le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre. Et ça, nous allons le faire. Je crois que ce n'est pas quelque chose du tout à cacher, parce que le gouvernement lui-même a confirmé qu'ils vont pouvoir faire ça. Et nous voulons vraiment, au-delà de ce qui s'était passé, peut-être prendre cela plus comme une opportunité réelle pour nous de pouvoir voir comment nous pouvons, de façon beaucoup plus sereine, travailler avec le gouvernement pour que vraiment, d'abord, les conventions sur les droits de l'homme ont été signées par le gouvernement. Vous savez, nous ne faisons que mettre en œuvre la résolution. Donc nous sommes là prêts, disponibles, à continuer à travailler avec le gouvernement pour justement la promotion des droits de l'homme dans ce pays-là.
On va prendre une deuxième question ici à Kinshasa. Nous notons l'arrivée à la conférence de presse de Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général, qui pourra aussi répondre à vos questions. Et une deuxième question ici à ma droite.
Merci Kaïm BRTG. Une question pour Martin Kobler qui vient d'arriver. Par rapport à l'adresse du chef de l'État lundi devant le parlementaire, il veut qu'on réduise. La question a été déjà posée à M. Soumaré. Je voudrais savoir, dans les contextes qui les nôtres, faut-il réduire ou revoir encore la hausse? Parce qu'apparemment, les 20 000 hommes n'ont pas suffi. Et s'il faut réduire, cela n'est-il pas un risque à prendre? Les chefs de l'État estiment pour l'instant que les pays se stabilisent, il est en sécurité, il n'y a plus de guerre classique. Est-ce que cette annonce tombe après nos mains? Merci.
Voilà, merci bien pour la question. La question de la revue stratégique et de la stratégie de départ de la MONUSCO, c'est une question entre le gouvernement et le Conseil de sécurité. C'est pas à nous à décider, mais nous donnons naturellement notre conseil. Mais au final, il faut le discuter, le gouvernement, avec les membres du Conseil de sécurité, parce qu'ils nous donnent le mandat. Et ils disent toujours aussi, alors ce sont 20 000 soldats ou 17 000 ou la brigade d'intervention, c'est la décision du Conseil de sécurité, c'est pourquoi les décisions sont là à New York. Nous avons vu maintenant, depuis le mois d'octobre, une détérioration de la situation à l'Est. Nous avons le cas des ADF et les atrocités qui sont commises par là. C'est une chose qu'il faut combattre. Il faut agir contre les ADF. Il faut agir aussi contre les FDLR. Maintenant, le délai de 2 janvier est très très proche. Il faut décider qu'est-ce qu'on fait. Nous devons avoir aussi, ensemble avec les FRDC, le dispositif, aussi les militaires qui le font. C'est pourquoi il faut entrer en discussion avec le gouvernement. L'autorité de l'État, c'est la chose la plus importante. L'autorité de l'État et la restitution de l'autorité de l'État à l'est du pays. Et puis, on va atteindre une solution, c'est très clair. Mais au final, alors, c'est le Conseil de sécurité qui décide.
Non. On va continuer. Le micro continue ici à la droite. Le micro continue à la droite pour une troisième question de Kinshasa avant de partir à Goma de nouveau.
Oui, Albert Romani, America TV. Ma question s'adresse au représentant spécial adjoint, coordonnateur de l'action humanitaire. Et la communauté internationale a demandé à ce que conditionner son appui à l'opération de démobilisation des groupes armés par l'instauration d'un gouvernement crédible, et que maintenant que le gouvernement est là, est-ce que concrètement le PNUD va assister tous les démobilisés, surtout les accompagnants, et surtout pour les cas précis de M23 dont les familles ne sont pas prises encore en considération malgré leur retour à RDC?
Bien, je n'ai
pas bien compris la question, mais je peux l'interpréter peut-être. Je crois qu'il est important d'abord que vous sachiez que concernant les M23, c'est vraiment tout dérive de l'accord de Nairobi. Donc il y a eu, c'est ce qui a été signé. Actuellement, la situation est telle que nous avons environ 120 ex-combattants M23 qui ont été donc qui sont arrivés aujourd'hui à Kamina après leur départ d'hier à Douganda. C'est une opération conjointe, le résultat d'un accord bilatéral entre le gouvernement ougandais et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous avions simplement voulu, en tant que mission, et donc à travers notre équipe qui s'occupe de la démobilisation de la réinsertion, faire en sorte qu'ils soient sur place, parce que le retour devra quand même être volontaire. Donc, et c'est pourquoi nous avions quand même aussi, nous allons continuer à observer, et ça avec l'accord d'ailleurs des deux parties, aussi bien de l'Ouganda que de la RDC, pour que nous continuions à justement superviser ce mouvement-là. Et c'est ce que je peux vous dire par rapport à votre question. Et je crois que même quand vous voyez, même en ce qui concerne le camp dans lequel ils vont aller au niveau de Kisangani, c'est un camp qui va être géré pratiquement totalement par le gouvernement, et nous allons continuer quand même à soutenir, mais dans les règles de l'art, nous disons toujours qu'il est important que nous puissions, et je suis sûr que aussi le gouvernement aussi fera en sorte que cela soit fait, pour que vraiment tous les aspects des droits de l'homme soient observés. Voilà ce que je peux répondre à cette question.
On va repartir à Goma pour une autre série de trois questions. Questions très courtes, hein, une question par journaliste.
Ok. Jules Ngala, d'abord.
Jules. Oui, Jules Ngala, je suis de Radio Okapi. J'ai une question relative aux groupes armés dont on a déjà parlé, et spécialement le M23. Et à ce sujet, justement, les déclarations de Nairobi stipulées clairement que les chefs du M23, responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'autres graves violations des droits humains, n'auraient droit à aucune amnistie. En revanche, ils seraient traduits en justice. Aujourd'hui, un an jour pour jour, j'aimerais demander à M. Kobler s'il peut nous faire un petit bilan. Qu'est-ce qui a été déjà fait dans le cadre de ces accords-là, ces déclarations-là de Nairobi, et qu'est-ce qui reste à faire?
Voilà, merci pour la question, c'est très important, et vous vous adressez la question de la lutte contre l'impunité ici par rapport aux déclarations de Nairobi. La lutte contre l'impunité est de ne pas amnestier ceux qui ont commis des crimes de guerre. C'est très important. Nous avons maintenant 559, selon les indications du gouvernement, 159 qui sont amnestiés déjà. Et comme Mustapha Soumaré a dit, 120 sont ici dans le pays. Je ne sais pas à l'instant maintenant si on a parmi ces 120 ceux qui ne sont pas être amnestiés. Mais je présume, alors la plupart de ceux qui sont rentrés, ce sont ceux qui sont amnestiés, et les autres sont au dehors du pays. C'est très important de renforcer toujours l'argument qu'on n'a pas d'amnestie pour ceux qui ont commis des crimes de guerre, des violences sexuelles, les enfants soldats et aussi d'autres crimes de guerre, parce que c'est très important qu'ils ne reçoivent pas l'amnestie.
Deuxième question, Goma.
Voilà, allez-y, comme ça. On va
c'est Norbert Mouloua pour la radio-télévision Graben. Human Rights Watch s'est lamenté et en même temps, elle a dénoncé ce qu'il qualifie de manque de coordination entre le FRDC et le casque bleu de la MONUSCO face au festival Massacre de Béni. Qu'est-ce que vous en pensez, Général?
Je vous remercie. J'ai le rapport, en fait, dont vous parlez sous les yeux. Je peux vous dire qu'on l'a bien étudié. Je voudrais réitérer, en fait, le point sur lequel j'ai insisté tout à l'heure. La réussite de ces opérations, comme l'a dit M. Kobler à maintes reprises, repose effectivement sur un ensemble de choses, dans lesquelles effectivement les populations jouent un rôle important. Mais nous, militaires, que ce soit les militaires de la MONUSCO ou les militaires des FRDC, je peux vous assurer que non seulement nous avons un niveau de coopération qui est très bon, mais qu'en plus nous le renforçons dans tous les domaines. Le domaine du renseignement, le domaine de la planification, le domaine de la capacité d'intervention plus rapide. Et comme on le voit aussi ces derniers jours, non seulement nous devons faire face à nos devoirs, on va dire, de sécurisation plus rapide des populations affectées par ces crimes odieux, mais nous poursuivons ce que ADF a cherché à nous détourner de faire, qui est la poursuite d'opérations dans la profondeur, dans le parc, pour effectivement aller à la recherche de ceux qui continuent à diligenter ces attaques odieuses contre les populations innocentes. Donc je peux vous assurer qu'il y a effectivement, comme partout, des questions d'interopérabilité, de capacité à travailler ensemble qui s'exercent, mais nous continuons actuellement nos efforts de manière à renforcer non seulement notre synergie, mais aussi notre efficacité sur le terrain. Nous ne sommes pas encore arrivés aux résultats attendus, mais nous sommes vraiment déterminés et nous sommes sur la bonne voie.
La femme là, allez-y.
C'est Mireille Masika. Ma question s'adresse au général Bayo. Depuis ce matin à Goma, on a remarqué le phare d'été en état d'alerte maximale. Qu'est-ce qui se passe au chef général?
Écoutez, je ne peux pas parler au nom des FRDC, mais je pense que simplement pouvoir dire que, comme vous le savez certainement beaucoup mieux que moi, les périodes de fin d'année sont souvent des périodes de possibles tensions, de possibles incidents. Je crois savoir que les autorités, non seulement militaires, mais les autorités du pays et de la province, sont mobilisées justement pour prévenir, on va dire, tout type d'incident. Et je crois savoir en fait que c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'il y a peut-être davantage de visibilité des services de sécurité. C'est certainement quelque chose que l'on doit certainement saluer.
On retourne à Kinshasa pour une autre séance. Ma gauche. Le micro à ma gauche, là, au fond.
D'accord, merci, monsieur le porte-parole. J'ai une question à monsieur Kobler qui venait d'entrer. Je suis Alain Botoko, je suis reporter indépendant, photographe. Monsieur Kobler, nous apprécions beaucoup dans ce que vous faites. Mais nous avons suivi une déclaration, je crois hier, d'un de vos patrons qui s'appelle Hervé Ladus. Il a dit ceci. Que la mission que vous conduisez ici en RDC a encore 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et alors, en suivant le chef de l'État, c'est comme s'il y a une contradiction entre lui et le chef de l'État. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Kobler? Est-ce que votre détermination à accompagner les Congolais dans le problème, dans les difficultés, va diminuer ou elle va remonter encore de plus? Donc c'est un peu la petite question que j'avais. Merci.
Voilà. Monsieur Latsous a aujourd'hui, je crois, une réunion avec représentants du gouvernement en Europe pour discuter la stratégie de départ. Et c'est la stratégie de départ de la MONUSCO, ça serait un résultat alors de la performance aussi du gouvernement ici. Si la restitution de l'autorité de l'État est complète, si c'est mieux, à l'Est en particulier, la sécurité, la stabilité du pays, la santé, l'éducation, les services de base et tout ça, c'est vraiment le temps de partir. Et c'est discuté entre M. Latsous aujourd'hui avec le gouvernement. Au final, comme j'ai dit, c'est le Conseil de sécurité qui va décider sur ça, aussi en consultation avec le gouvernement. Nous voulons assister le pays alors de créer un développement irréversible. On ne peut pas laisser un pays fragile. C'est ce que je dis toujours et on est d'accord aussi avec Hervé Latsous, mais aussi le gouvernement, mais aussi les autres couches sociales, ici la société civile, d'avoir une situation qui est irréversible ici pour avoir le développement économique. Toujours, si je voyage à l'Est en particulier, les gens disent on veut la stabilité, en particulier les femmes, les mamans.
Ils disent, nous voulons avoir la paix, la stabilité, la sécurité. Nous voulons envoyer nos enfants aux écoles dans une atmosphère de sécurité. C'est ce qu'ils veulent. Si l'État est ici, le gouvernement est prêt de le garantir pour tous les citoyens, c'est le temps de partir.
Une deuxième question, on va continuer ici à gauche. La femme.
Une femme, oui.
Une femme. C'est une femme.
Bonjour, une question pour M. Kobler, Aurélie Fontaine de la... Oui. Aurélie Fontaine de la RTBF, la radio-télévision belge. Je voulais savoir par rapport au discours de Joseph Kabila de lundi, il n'a pas rassuré sur le calendrier des prochaines élections présidentielles. Et il n'a pas non plus clarifié sa position par rapport à un possible troisième mandat. Est-ce que vous attendiez de ce discours-là plus de clarté?
Voilà, notre position ici est claire. Et j'ai été à l'Assemblée nationale aussi, au palais de congrès, pour écouter aussi le discours du président. Je crois ce qu'il a dit sur les élections, c'était très très clair. Il veut avoir des bonnes élections, et c'est ce qu'il dit toujours. Nous sommes tout à fait d'accord d'avoir des bonnes élections. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut la communauté internationale voudrait bien voir très 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 bientôt le calendrier global pour les élections. Ça veut dire le calendrier, c'est pas à la communauté internationale de décider quoi faire, mais pour être en position de financer avec le PNUD, pour organiser la logistique, il faut avoir le calendrier global. Ce sont les municipales locales et urbaines, ce sont les élections provinciales et ce sont les élections nationales présidentielles. Il faut l'avoir sur la table, puis on va discuter notre participation, pas seulement de la MINUSCO, de toute la communauté internationale, pour assister la CENI, alors d'organiser ces élections. Ici, notre position est très très claire, il faut avoir le calendrier électoral et deuxièmement, un plan de financement. Si on ne sait pas, alors la partie de financement des Congolais, on ne peut pas déterminer le financement de la communauté internationale.
On profite pour dire au revoir aux auditeurs de Radio Capi, mais on va continuer ici pour encore 2-3 questions. On continue ici à ma gauche. Je pense qu'on a encore 5-10 minutes pour terminer la conférence de presse. Allez.
Lane Zavestorf de RFI, c'est une question, Monsieur Kobler. Suite à ce qui s'est passé hier en Ouganda, à savoir le rapatriement des ex-M23, il y a environ 1000 ex-combattants du M23, à savoir la colonne principale et les principaux hommes, qui sont dans la nature. Est-ce que ça vous inquiète?
Voilà, comme nous avons déjà dit, il faut mettre en œuvre les déclarations de Nairobi et ce sont des Congolais, ils doivent rentrer au Congo. Maintenant, on a le commencement alors de la rentrée de 120 personnes, ils sont partis hier. Nous avons deux demandes, ça doit être un processus volontaire. Ça doit être un processus volontaire d'être rapatrié ici. Notre équipe de la MINUSCO, mais aussi la SADC, CIRGL, ils ont été à Entebbe pour voir comment se passe le processus. Nous avons l'impression que ces 120 sont rentrés sur une base volontaire. Deuxième demande, c'est d'être présent à Kamina. C'est le camp militaire où ils seront allogés. Il faut être présent pour observer alors ici la situation. Et c'est un processus qui est en train maintenant d'être mis en œuvre entre l'Ouganda, comme Mustapha Soumaré a dit, et le gouvernement ici. Je crois que c'est bien de lancer ce processus parce que les déclarations de Nairobi n'ont pas été mises en œuvre alors pendant maintenant un an. Je crois l'anniversaire c'était le 12 décembre 2013. C'était le date des déclarations de Nairobi. C'est maintenant vraiment temps alors de mettre en œuvre ces déclarations.
On a le temps pour deux dernières questions. La première va venir de Goma et après la dernière ici. Goma, Amadou.
Il est parti. Bon, vas-y.
Merci beaucoup. Je m'appelle Gaïs Cohen et de l'agence des presse turques Anadolu. Ma question s'adresse au général Bayo parce que d'ici près de deux semaines, vous devez lancer des opérations contre les FDLR et il y a aussi le front contre les AFDLR. Est-ce que vous... Contre les ADF, excusez-moi. Si vous pensez aujourd'hui que la brigade d'intégration et l'armée ont la capacité nécessaire pour ouvrir deux fronts au même moment?
La réponse est oui. Parce que la question du FDLR, en fait, c'est une question qui a été sur la table depuis très longtemps. Vous savez, c'est une priorité du Conseil de sécurité. C'est une priorité aussi pour la stabilisation de toute la région, et pas uniquement de l'Est du Congo. Et ça fait aussi très longtemps que nous avons des plans. Je crois même pouvoir dire, en fait, que pour les Congolais eux-mêmes, ça ne sera pas le début d'opération. Ça sera la reprise d'opérations telles qu'elles ont été faites par le passé. Mais cette fois-ci pour aller au bout d'un processus, peut-être volontaire ou peut-être sous la pression d'opérations militaires. En même temps, effectivement, nous avons un devoir d'intervenir dans la région de Beni, parce qu'il y a des crimes odieux qui sont commis. Nous avons là un adversaire qui est particulier, qui est extrêmement difficile à combattre, parce que lui-même change en permanence sa stratégie, et il applique en particulier une stratégie extrêmement lâche de tuerie effectivement des populations innocentes. Donc nous avons un devoir d'y répondre, mais nous sommes aussi prêts à opérer, si effectivement les conditions nous l'imposent, aussi simultanément contre le FDLR.
On va venir ici maintenant pour la dernière question ici à Kinshasa, mais j'ai un message pour vous. Ne quittez pas parce que je vous demande de rester assis parce que comme d'habitude nous avons prévu un petit rafraîchissement pour vous. On va voir ça après la dernière question qui va venir ici de ma droite.
Oui, c'est Patrick Boykabuika pour Desas Télévision. La question s'adresse au colonel Félix Prosper Basse. Colonel, après les tueries attribuées aux ADF sur la population civile de Beni, il s'observe actuellement un phénomène de prise d'otage avec des membres d'une rançon par un groupe rebelle à Boutembo. Comment ce phénomène est scruté par la MONUSCO? Merci.
Oui, vous avez parfaitement raison d'évoquer cette situation parce qu'elle est préoccupante. Effectivement, depuis un certain temps, nous avons observé que des prises d'otages ou des kidnappings étaient perpétrés par certains individus qui n'ont pas encore été clairement identifiés. Et c'est à ce titre dire que des réunions de sécurité ont été tenues dans le territoire de Lubero et de Beni pour effectivement voir comment contrer cette propension à des prises d'otages que nous avons observées ces temps-ci. La force de la MONUSCO et les FRDC aussi, plus la PNC, tout à fait conscientes de cette nouvelle menace, sont en train de se déployer sur le terrain pour mettre un terme de manière définitive à toutes ces exactions que nous avons observées. Jusqu'à présent, il n'a pas été établi de manière claire et précise qui en sont les auteurs, ni le mode opératoire qui a été mis en œuvre depuis un certain temps, mais nous avons observé que c'était plutôt des jeunes individus qui étaient ciblés et qui étaient l'objet de ces enlèvements. Et c'est en cela que nous travaillons en parfaite synergie avec les forces de défense et de sécurité congolaises, plus les autorités locales de ce territoire-là, pour endiguer ce phénomène et mettre un terme de manière définitive à tout ce que nous avons observé comme étant une menace contre les populations civiles et dont nous avons l'obligation de contrer et de réduire à des.
Merci, c'est la fin de la conférence de presse. Je vous rappelle que la prochaine conférence hebdomadaire, à cause des fériés de Noël et de la nouvelle année, se tiendra le 7 janvier 2015. Merci beaucoup. Maintenant, on va avoir notre rafraîchissement. Merci.